Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV. C'est vous qui représentez le système.
Il est presque 9h40 sur France Inter. L'instant M, ça passe vite, mais ça en dit long.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il y a encore plus dingue que l'Instant M qui doit en être à sa, à mon avis, cinquième émission sur la distribution de la presse. Il y a l'hebdomadaire Le 1 qui y consacre un numéro entier. Alors les uns vous diront, laissez tomber, c'est trop technique, ça n'intéresse personne. Les autres, nous, martelons au contraire. Les journaux sont l'un des piliers de la démocratie. Pourquoi ne faudrait-il habiter que dans une grande ville bien chic et bien bourgeoise pour trouver un kiosque? Pourquoi n'y aurait-il que les puissants groupes de presse qui auraient les moyens de survivre et pas les petits éditeurs, pas les journaux d'opinion, ceux qui chahutent et qui dérangent, même avec peu de moyens? Le papier est-il condamné à disparaître? Nous, on pense que ça vous intéresse. Alors ce matin, enquête sur pourquoi tout le système s'est écroulé. L'histoire est effarante.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour à tous les deux, chers invités. Philippe Kiefer, en chair et en os, bonjour.
Bonjour.
Philippe Kiefer, quand même, je vous le dis. Un grand nom du journalisme média, Kiefer et Chamard, c'était Libération, l'histoire de, secrète de la télévision, tout ça, je me sens toute petite à côté de vous.
Oui, n'inversons voilà. Pas les rôles.
Non, mais je vous le dis vraiment tout à fait sincèrement. Et à vos côtés, Eric Fotorino, bonjour.
Bonjour Sonia.
Vous avez fondé Le 1, cette grande feuille hebdomadaire qui se déplie, qui se vend en kiosque, 20 000 abonnés, 15 000 numéros en plus de vos 20 000 abonnés par semaine, dont 14 000 en kiosque, ça n'est pas rien. Je précise également que vous êtes le cofondateur d'America, succès foudroyant de ce trimestriel consacré à l'Amérique de Trump, et que là aussi, pour une revue qui se vend à 19 euros pièce, hein, c'est pas rien, 40 000 exemplaires par numéro. Et là, on est à peu près à parité entre le kiosque et la librairie. Voilà, c'est donc.
Vous avec aviez... François Bunel pour America.
Absolument. Vous aviez promis à vos lecteurs de faire la lumière sur l'affaire Prestalis. Mmh. Prestalis, c'est le nom de cette entreprise privée qui gère la distribution des journaux en France. Chose promis, chose due. Ou chose réalisée. En tout cas, vous avez confié donc à Philippe Kiefer le soin d'enquêter sur Prestalis. On va en parler dans un instant, messieurs. Je profite de votre présence pour vous soumettre deux actualités médiatiques. Jean-Luc Mélenchon, hier, à la manif de soutien des cheminots.
C'est vous, les médias, qui faites un travail de merde. Vous salissez les grévistes.
Mais
vous les
insultez. Les
regardez, monsieur, vous me posez une question. Vous ne me demandez pas, est-ce que le train va mieux marcher une fois qu'il sera privé? Est-ce que le statut doit être modifié? Vous venez, vous me parlez des gens désemparés sur les quais. Bien sûr que les gens sont désemparés sur les quais. Si vous allez sur le quai, c'est pour prendre le train, il n'y a pas de train, vous n'êtes pas content. Mais il faut aller au fond, il faut réfléchir avec sa tête.
Voilà, et après, il y a réfléchir avec sa tête, il y a des cheveux, en dessous il y a des os et en dessous il y a un cerveau. Alors la partition de Jean-Luc Mélenchon, messieurs, on la connaît lorsqu'il parle des médias. J'ai tout de même relevé hier, car c'est très inhabituel, une manif de cheminots devant le siège de BFM TV, la CGT se plaignant du traitement réservé à la grève. Sachez que Hervé Bérou, qui est le patron de BFM TV, et que Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique, sont venus dialoguer avec la CGT. Ça vous fait réagir l'un et l'autre, Eric Fotorino?
Oui, je trouve ça, évidemment, il faut le prendre au sérieux, mais il y a quand même une ironie de l'histoire extraordinaire. La CGT du livre, c'est le principal fossoyeur de la presse écrite en France. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, il faut pas à la fois... Il y a une alliance objective depuis 45 entre la CGT et les grands patrons sur la presse. Donc, si maintenant ils se plaignent de la télé en continu, des infos en continu qui leur déplaisent, pourquoi ils ont bloqué des journaux aussi longtemps? Pourquoi ils ont accompagné la mort des journaux aussi longtemps? Donc, j'aime bien quand un discours est clair. Et là, évidemment, c'est une contradiction. On est presque chez Molière et Tartuffe.
Eh ben, l'émission commence bien, Philippe Kiefer.
Pas mieux que ce que vient de dire Eric, mais un mot à propos de l'attitude régulière de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je pense qu'il existe un délit d'incitation à la haine raciale. Est-ce qu'il faudra en venir à imaginer un délit d'incitation à la haine des médias? Parce que là, on est dans la continuité, dans la poursuite de quelque chose qui relève d'une haine continuelle des médias. Que les médias puissent être dispensés de toute critique, évidemment, ce n'est pas le cas.
Surtout pas.
Mais il faut voir à quelle intensité ça prend et il faut voir comment se dégrade aussi le vocabulaire qui accompagne cette critique. Celui de Jean-Luc Mélenchon n'est pas le mien.
Merci à tous les deux. On continue à feuilleter l'actualité du jour. Elisabeth Borne, ministre des Transports à l'Assemblée nationale.
Moi, je voudrais vous dire que je pense d'abord aux usagers qui sont aujourd'hui très pénalisés, ceux qui prennent le train tous les matins pour aller au travail, qui ont été pénalisés ce matin et qui seront de nouveau pénalisés ce soir.
Lundi soir, messieurs les Échos ont renoncé à publier une interview de la ministre tant elle avait été réécrite, non pas par elle-même, mais par les services de Matignon. Alors hier, Matignon s'est défendu en parlant à l'AFP, rappelant que ce droit de relecture ne date pas d'aujourd'hui et qu'il permet d'éviter d'éventuels contresens dans la retranscription. Réaction Éric Fautorino, je précise que vous êtes l'ancien patron du Monde également.
Oui, et j'ai souffert de cette règle à tel point que quelquefois nous n'avons pas publié des entretiens avec des ministres, y compris des ministres qui a priori étaient très ouverts, je me souviens de Michel Rocard, par exemple, parce que c'était tellement réécrit que, effectivement, c'était insupportable. Mais je pense aujourd'hui, puisque j'ai évolué, j'ai vieilli et j'ai pris de l'expérience, la meilleure manière, c'est de ne pas le soumettre et de le poser comme une règle au début. C'est-à-dire, on ne fait pas relire. On ne fait pas relire parce que
quoi ? Il faut que le deal soit clair.
Aujourd'hui, avant, vous savez, on était des artisans, on avait des magnétos qui ne marchaient pas, paraît-il, etc. Non, maintenant, on peut bien enregistrer, on sait ce qu'a dit la personne. Et je vais vous donner une petite anecdote.
Dites-nous.
Emmanuel Macron, quand il était même pas encore candidat, mais qu'il allait peut-être l'être, à un moment donné, j'ai fait un entretien long avec lui. Mm-hmm. Et à la fin de son entretien, que je lui ai redemandé pour s'il serait candidat, il a fini par me dire que s'il n'était pas lui-même un obstacle à ses idées, il le serait. Et alors là, sky is the limit, avait-il dit. Et moi, je ne l'avais pas entendu pendant l'entretien, je l'ai entendu en le décryptant. Et j'ai dit à Sylvain Faure, qui est sa plume, il y a sky is the limit, vous avez bien entendu ça. Bien non, il faut, ne mettons pas ça. Bien sûr, je l'ai mis, mais non pas pour faire un bras d'honneur, pas du tout. Mais simplement, c'était tellement fort que j'allais pas enlever cette phrase qui était quand même extraordinaire sur l'état d'esprit du futur candidat.
Bien sûr, à qui rien ne résiste, même pas le ciel. Philippe Kiefer, vous avez un commentaire ?
Même raisonnement, mais je crois qu'il faut être radical sur un sujet comme celui-ci, c'est-à-dire qu'effectivement, soit on donne son accord avant pour que ce soit relu et amendé, et dans ce cas-là, il faut dire les choses comme elles sont, ça ne sert à rien de faire une interview, autant passer par le service communication de l'entreprise ou du ministre et lui demander un texte qu'on publiera avec un petit encadré.
Sachez que la Voix du Nord, récemment, a pris une décision radicale, c'est-à-dire plus d'entretiens relus et amendés, publiés dans les pages, et que Édouard Philippe, Premier ministre, a récemment accordé une interview au journal, justement, en acceptant cette règle.
Je vais ajouter Philippe une chose, Kiefer. C'est quand même une curiosité que des personnalités continuent à demander cela.
La relecture ?
Oui. C'est-à-dire qu'on devrait, on est en 2018, on devrait avoir conscience que soit le journaliste fait son travail comme il doit le faire, soit on n'a pas confiance et on lui parle pas, c'est pas la peine.
Bien, alors on va parler de distribution de la presse ? Allons-y.
Volontiers.
Chaque lundi matin, le numéro du 1 est imprimé dans le Loiret. 60% des exemplaires sont destinés à la vente chez les marchands de journaux. Le reste est destiné aux abonnés du 1. Ces exemplaires, une fois emballés, sont livrés à la plateforme logistique de Prestalis, en région parisienne. Les journaux sont ensuite acheminés vers une centaine de dépôts à travers la France, puis le mercredi matin, auprès des marchands de journaux.
Philippe Kiefer, vous êtes journaliste média, vous avez enquêté pour le 1, je déplie pour ceux qui nous regardent en vidéo, voici votre gigantesque enquête qui tient sur un poster. Donc, Prestalis, en un mot, Prestalis, qui s'appelait auparavant l'NMPP, Prestalis c'est donc l'entreprise privée qui distribue en France auprès des 25 000 points de vente 75% de nos magazines et la totalité des quotidiens, ça fait beaucoup, ça fait 350 millions d'exemplaires par an. Concrètement, la distribution de la presse, c'est quoi ? Concrètement,
ça consiste tout simplement, si vous produisez un journal, à ce que quelqu'un à la sortie de l'imprimerie vienne chercher vos exemplaires.
Donc des camions, des chauffeurs,
les achemine dans un endroit qu'on appellera un dépôt pour simplifier, et de ce dépôt, ces journaux vont ensuite partir vers le maillage de tous les marchands de journaux.
Re des camions, re des chauffeurs.
En principe, des plus grandes villes jusqu'aux plus petits villages, quand il subsiste un marchand de journaux villages.
C'est ça, c'est pas tous les jours. Et puis aussi, chemin inverse, c'est-à-dire qu'on ne vend pas tous les journaux dans un kiosque, voilà, donc Prestalis s'occupe aussi.
Votre journal n'est pas bon, votre magazine n'est pas bon, ce dont je doute fortement, mais ça peut être le cas, où il n'a pas trouvé sa clientèle, et il faut rapatrier des exemplaires, ce qui coûte assez cher. C'est beaucoup de petits exemplaires à ramener d'ici et là.
Donc on les trie, on les collecte, on les remet dans des camions.
Et c'est ça qui va notamment augmenter votre coût de distribution, parce que vous avez un coût moyen de distribution qui va être, c'est-à-dire ce que vous allez payer à la société qui vous distribue, Prestalis, qui va prélever autour de 35-36% en moyenne. C'est un contrat classique. La réalité, c'est que si votre taux d'invendu est très élevé, ce que vous allez payer va peut-être être à 40, 45, 50, parfois davantage.
Alors Éric Fotorino, vous êtes donc le fondateur du 1, vous demandez, dans l'ouverture du journal « Ce n'est pas rien », l'ouverture d'une commission parlementaire. Dans un instant, nous allons détailler avec Philippe Kieffer le contenu de son enquête, ce qu'il révèle sur le scandale de gestion qui fait que tout le système est en train de s'écrouler. Vous, un mot d'abord, vous demandez l'ouverture d'une commission qui est parlementaire, c'est un acte fort.
Oui.
En quoi 350 millions de trous dans la caisse d'une entreprise privée, ça concerne les Français ?
Ça concerne les Français parce que d'abord c'est de l'argent public pour une partie, pour une grosse partie, c'est 250 millions d'euros. Donc effectivement je demande officiellement et sur votre antenne cette ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Je sais que des sénateurs, sénatrices sont déjà, nous écoutent et vont faire une démarche dans ce sens parce qu'on paye beaucoup trop cher les journaux en France et que cet argent a, et Philippe Kieffer le démontrera bien dans l'enquête tout à l'heure et il vous le dira à ce micro, mais on est face à une opacité tellement forte, à une absence de transparence, que c'est un scandale dans un contexte que je voudrais rappeler. Il est très grave, c'est mortifère pour l'information. Non, on est dans la première fois dans notre histoire moderne, à un moment donné où le faux peut l'emporter sur le vrai. C'est-à-dire, c'est ce que disait Guy Debord, hein, le vrai sera un moment du faux un jour. Eh bien, le fait qu'on soit dans ce moment-là, et que d'autre part, les patrons des grands groupes de presse sont ceux qui ont voté la mort du papier, sont ceux qui considèrent que tout est numérique demain, et qui n'aiment encore moins, ils n'aiment pas le papier, et ils aiment encore moins le journaliste, c'est-à-dire le journaliste, non pas qui relaye l'influence qu'ils veulent avoir, mais qui fait son boulot d'informer et de bousculer. Donc on est dans ce moment-là. Et donc, dans ce moment-là où ce sont des milliardaires qui reçoivent toutes les aides publiques à la presse, vous avez Presstalis qui est co-géré de façon incestueuse par un certain nombre d'éditeurs et par cette société pour mettre les journaux au tapis. Et ça dure depuis 1945, mais là, je pense qu'on assiste
avec les camarades. Ah bah là, la situation est vraiment très, très grave. Historiquement, très, très grave. Alors, Philippe Kieffer, allons-y, disséquons cette gestion effarante. On va commencer par l'un des points de votre enquête. Il y a énormément d'argent qui circule chez Presstalis. Il y a 90 millions d'euros qui circulent par jour dans les tuyaux. Cet argent, il n'appartient pas à l'entreprise Presstalis. C'est de l'argent qui circule entre le marchand de journaux, entre les éditeurs, etc. Mais la tentation est grande, quand on a des problèmes de trésorerie, de s'en servir.
Alors, si j'ose dire, on commence par la fin. Mais ce que vous venez de dire est tout à fait exact.
C'est-à-dire,
mais, et en même temps, normal, une entreprise qui a ce type d'activité, il y a beaucoup d'argent qui circule en permanence dans la société, qui remonte des ventes qui sont faites chez les marchands de journaux et qui doit être redistribué auprès des différents éditeurs. On parle de centaines et de milliers de publications.
Oui.
Donc, effectivement, il y a une somme, une sorte de roulement continuel dans la tuyauterie de la société qui est de l'ordre de 90 millions chaque jour. Mais il faut reprendre les choses peut-être au début. Au début, on a une méga crise.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est avec ces 90 millions par jour, vous dites cette entreprise, elle a fait de la cavalerie pendant des années.
Ça, c'est le résultat
pendant
du
des
déficit
années.
Et du manque de trésorerie crucial que connaît cette
Absolument.
Société.
Absolument, mais il faut dire là où on en est arrivé à faire de la cavalerie. C'est dire le trou béant sur lequel cette entreprise était assise. Alors, allons-y, votre enquête, elle démarre en 2013. À ce moment-là, on sort d'un grand plan social, 1200 personnes mises à la porte, et on annonce à tout le monde que le système va repartir d'un bon pied. Eh ben non.
Il est remis comme à zéro. C'est-à-dire que l'État met de l'argent, on a licencié, c'est la moitié du personnel à l'époque, c'est énorme. Et on repart sur de nouvelles bases. Et beaucoup de ceux qui acceptent de parler vous disent, à cette époque-là, on aurait dû avoir Presstalis se recentrant sur son activité qui est, au fond, de collecter des journaux, de les acheminer, de faire revenir les invendus, point final. Or, la société s'est lancée au contraire. C'est tout à fait défendable à l'époque, peut-être, dans l'esprit de ses dirigeants, s'est lancé dans une série d'opérations qu'on qualifie aujourd'hui pudiquement d'hasardeuses, qui ont consisté à créer un nouveau réseau de plateformes, des dépôts. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est extrêmement complexe, mais ça a coûté près de 50 millions et ça n'a pas produit les résultats escomptés.
Oui, ça s'appelle une catastrophe industrielle.
Exactement. C'est-à-dire qu'on vous dit que les camions devaient être pleins à la sortie de ces dépôts. En fait, on vous dit souvent ils étaient au tiers remplis ou à moitié vides.
On s'est lancé dans des diversifications numériques totalement aberrantes, du genre proposer aux jeunes des applications sur leur smartphone pour localiser des marchands de journaux. Ces mêmes jeunes qui se servent de leur smartphone pour lire la presse sur un écran.
Exactement.
Bref, fiasco encore.
Échec, c'est pas le plus ruineux de l'affaire.
Non, allons-y.
Et même, ça pouvait se comprendre à l'arrière. S'il faut bien préciser une chose avant, c'est que dans cette affaire, la tendance d'un peu tout le monde est à tout rejeter sur les anciens dirigeants. Or, comme vient de le dire
Anne-Marie
Éric,
Couder et Vincent Rey.
Exactement. Or, ça ne peut pas être le cas, ou pas seulement, parce que tous les grands groupes de presse sont les administrateurs de Presstalis. Alors, on a des groupes qui, année après année, ont en quelque sorte validé cette dérive. La deuxième, c'est un système informatique commun qui devait avoir lieu entre les messageries lyonnaises, concurrentes de Presstalis, et Presstalis. Ce système a été mis en place, n'a pas fonctionné, c'est pire que pas fonctionné, non. Tout le monde s'en est plaint.
Il a coûté des dizaines de millions d'euros.
Il devait coûter 12 millions, il a coûté presque le double.
Voilà, et plus chaque année, puis il a fallu revenir à l'ancien. Quand vous dites que c'est un système très incestueux, hein, Éric Fautorino, je rappelle que le groupe Lagardère, c'est-à-dire JDD, Elle, Paris Match, Le Canard Enchaîné, Mondadori, c'est-à-dire Closer, une grande partie de la presse télé, Le Monde, Prisma, c'est Femme Actuelle, Le Figaro, Condé Nast, c'est Vogue, Glamour, etc., sont les principaux décideurs du système. Philippe Kiefer, vous dites aussi qu'on s'est rendu compte que les gros éditeurs bénéficiaient de contournements, des tarifs et des barèmes, de ristournes, de contrats spécifiques.
C'est là où il faut un instant revenir sur le schéma.
Allez-y.
C'est une société privée, mais elle est dirigée, pilotée par deux coopératives. Donc un système coopératif, une coopérative de quotidien, une coopérative de magazine. C'est pas parce qu'on est dans une coopérative qu'on est dans une amicale de bisounours.
Hein. Oh,
c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a des tarifs qui, en principe, des barèmes qui, en principe, sont clairs, transparents et les mêmes pour tout le monde. Ça fait des années qu'on entendait dire que ça n'était pas tout à fait transparent pour tout le monde. Et un jour a éclaté, en 2016, un scandale interne aux messageries avec un des dirigeants des messageries lyonnaises, concurrentes de Presstalis, révélant qu'il existait des contrats spéciaux. Autrement dit, que certains payaient moins ou mieux, avaient des avantages. En natu, on va dire, je vous paye une partie de l'imprimerie ou je ne compte pas telle tournée de camion, etc. Scandale, parce que ce manque à gagner, quelque part, il est lissé, répertorié sur tous les autres. Et ce sont les petits éditeurs qui trinquent, qui paient très cher, ce que dirait qu'une distribution, alors qu'eux-mêmes, leur économie est devenue de plus en plus fragile au fil des années.
Éric Fautorino.
Et le résultat de ça, c'est le plan qui arrive maintenant. C'est un racket. Je ne sais pas encore s'il est légal ou illégal. Pour moi, je pense qu'il faudrait aussi, mais certains éditeurs le font, une procédure pénale pour mettre en cause les faux bilans, la dissimulation de comptes. Parce que si vous voulez, moi
parce
je
que
veux dire...
tous les groupes dont vous parlez, ils disent mais nous on nous a menti pendant des années.
Oui, mais enfin,
le jour où on nous a montré les chiffres, on est tombé des nues. Philippe Kiefer.
Oui, alors je ne crois pas qu'on puisse tomber des nues sur une situation pareille.
D'accord. Éric Fautorino, le plan dont vous parlez, c'est qu'on va ponctionner, en plus de l'argent que vous payez à Presstalis, 2,25%
de notre chiffre d'affaires, au montant fort, ça veut dire le prix de vente facial de notre journal multiplié par le nombre d'acheteurs.
Voilà, pendant 5 ans.
Pendant 5 ans, ça veut dire que quand même, pour une petite entreprise comme la nôtre, le 1 et America, on a fait nos calculs, ça va te faire, au bout de 5 ans, 500 000 euros. Mais ces 500 000 euros, est-ce que je vais les remettre dans une caisse noire opaque dont je ne sais pas à quoi elle va servir? Est-ce que vous vous rendez compte que le plan social dont parle Philippe Kiefer tout à l'heure de 2012, Presstalis, sert encore à payer des gens qui étaient des syndicats du livre.
C'est
la partie majeure du trou.
Philippe Kiefer, allez-y. C'est-à-dire qu'on a offert des conditions aux gens de Presstalis pour partir qui sont absolument incroyables. Même les plus de 55 ans, on continue de leur verser leur salaire.
Jusqu'à leur retraite.
Donc voilà, c'est ce que continue à payer Presstalis. C'est-à-dire, quand on regarde et quand on se fait expliquer comment on arrive à un trou de 300 et quelques millions, on dit, mais oui, mais chaque année, environ 35-40 millions à payer au titre des départs qui ont été opérés en 2012. Et ça va continuer sur 2018-2019. Et il va falloir faire partir aujourd'hui près de 250 personnes en plus. À quel prix?
À quel prix? Voilà. Et c'est là qu'on remet la CGT dans la boucle, Éric Fautorino?
Bien sûr, parce qu'il y a une alliance objective. Vous savez, après la guerre, je vais être un peu caricatural, mais vous avez en gros, les gaullistes ont pris les journaux et la CGT, le Parti communiste, a pris les imprimeries. Et on a vécu là-dessus aujourd'hui. Et donc, cette économie de rente, on en meurt. Et je pense que l'année 2018-2019 va être sanglante pour la presse écrite, pour les petits éditeurs. Alors, au moment où on nous dit les fake news, etc. Oui, mais enfin, si on fait mourir et qu'on les petits éditeurs et qu'on continue à alimenter en aide publique les grands groupes de milliardaires, là, je pense qu'on marche vraiment sur la tête.
Je vous remercie beaucoup, tous les deux, Éric Fautorino, Philippe Kiefer, qui voulait ajouter un dernier mot, parce qu'on déborde. Dites-nous.
Mais je crois qu'il serait important pour éclaircir ce débat que soit rendu public le rapport de Monsieur Ramex, qui a été fait sur le sujet et qui est aujourd'hui enterré, caché, dissimulé, notamment par le ministère de la Culture.
Eh bien, les pouvoirs publics, vous êtes les bienvenus dans l'Instant M pour répondre à toutes ces attaques. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de l'émission.